Bienvenue pour Allo Tibé,
présenté par Myriam Piccinali.
Avec la complicité de Ludovic Tirol de 48FM, votre radio en Lozère, à Mende. Nous partons ensemble pour le Tibet, à travers des lectures de textes sacrés et profanes appartenant à la littérature tibétaine ancienne et ses sources indiennes que l'on peut qualifier de littérature d'éveil. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Nous saluons chaleureusement les auditrices et les auditeurs de ce 12e numéro d'Allo Tibet. Et nous allons changer un petit peu d'univers, voilà, et parler en première partie d'un roman contemporain. Et son premier et immense avantage est qu'il nous parle du Tibet lui-même, de l'enfance et de l'adolescence de l'auteur. Donc, pour moi, c'est un témoignage direct et en plus drôle et tendre. Enfin, vous ferez votre propre opinion. Le titre « En attendant la neige », Lacham Gyal, c'est l'auteur. Il est paru aux éditions Piki en 2021 avec une traduction de Françoise Robin. Alors, je lis le titre « Peki Che Chuk », le titre en tibétain qui veut dire « L'enfant chéri du Tibet ». Et il a été refusé par l'édition française en tant que telle et ils ont pris la traduction, enfin celle que je vous ai proposée, « En attendant la neige ». En couverture, on a un enfant tibétain, à peu près 8 ans, je pense, 8 ans, avec un petit collier de bout de tissu propitiatoire, un peu comme ces drapeaux de prière, vous savez, qui sont accrochés sur les mâts autour des shortens. Donc, il y a un lien avec le religieux toujours. Hein. Et des édifices religieux, ce sont des sortes d'édifices, oui, ce sont des édifices religieux. Ce sont en fait des sortes de bornes sur les cols et les chemins ou les monastères. Et ils sont censés, donc, ces drapeaux de prière, hein, propager des bénédictions, en fait, par les messages de paix et de bonheur et de prospérité qui sont écrits en caractère tibétain sur les drapeaux eux-mêmes. Alors, on nous présente donc Lacham Gyal. Il est né en 1978 en Amdo, c'est-à-dire l'est, nord-est du Tibet. Il découvre vers 18 ans Maupassant, Hugo, Flaubert, et à travers eux, l'infinie diversité des êtres et des mondes. Devenu écrivain, il compose de nombreux essais et récits sur le territoire, le Tibet, où il a passé son enfance, et sur les gens qui le peuplent, qu'il considère, là c'est une citation, comme remarquable et digne d'être mis par écrit. Il est vice-directeur de l'Institut de recherche sur les religions au Centre de recherche sur les études tibétaine de Pékin. Et j'ai eu la chance que donc l'INALCO et Françoise Robin nous a proposé une rencontre en Zoom, bien entendu, avec cet auteur. Donc, il parlait directement de Chine. Et c'était vraiment émouvant, vraiment. C'était très intéressant. Donc, quelque part, dans cette citation, on peut penser qu'il rend hommage aussi aux personnes assez contemporaines qui, voilà, à travers cet ouvrage. Je vous lis un petit bout de l'avant-propos, parce que je trouve aussi qu'il est intéressant, surtout pour nous, Français. Nous aimons bien qu'on nous flatte. Je crois que c'est un peu, bon, voilà, un peu général. Donc, préface, hein, extrait de la préface. À 18 ou 19 ans, j'ai lu en traduction tibétaine plusieurs nouvelles de Maupassant, parmi lesquelles La parure et Boule de suif. Et à peu près à la même époque, tout en gardant les moutons l'été, j'ai également lu, en traduction chinoise, « La Dame aux camélias » de Dumas fils, « Les Trois mousquetaires » de Dumas père, « Notre-Dame de Paris » de Victor Hugo, « Le Rouge et le Noir » de Stendhal, quelques volumes de la Comédie humaine de Balzac, ainsi que « Madame Bovary » de Flaubert et d'autres romans encore. Je les lisais, immobile, couché sur le dos, étendu à plat ventre, installé sur le côté, et dans d'autres positions, sur une montagne du haut plateau, tandis que par moments, des vautours carnivores planaient et tournoyaient dans l'espace, leur ombre noire se mouvant au-dessus de moi, sous les rayons chauds et secs du soleil. À coup sûr, ces vautours se méprenaient sur mon compte et croyaient que j'étais un cadavre humain. En effet, chez nous, quand une personne meurt, on a coutume d'offrir son cadavre aux vautours. vautours qui ont ainsi pris l'habitude de se nourrir de chair et de sang d'homme. Dès lors, à la vue de mon corps longtemps immobile, ils devaient sûrement se dire que j'étais un cadavre humain qui leur était destiné. Pendant ces quelques années, j'ai donc lu ses œuvres avec l'émerveillement de la jeunesse. Et ce monde des livres me paraissait admirable et étonnant. Non seulement les personnages littéraires étaient pour moi source des sensations les plus variées, joie, tristesse, amour, haine, mais j'ai compris qu'au-delà de ce territoire des hauts plateaux où je vivais, et par-delà ma propre existence, cette terre fourmillait de mondes grandioses et différents. Je suis devenue à mon tour un auteur de textes littéraires en langue tibétaine. Et la moitié de ma vie s'est désormais écoulée. J'ai jusqu'à maintenant écrit sur le territoire où j'ai passé mon enfance et sur les gens qui le peuplent, que je considère comme remarquables et dignes d'être mis par écrit. Que les textes que je compose s'affranchissent des barrières de la langue et soient lus par des gens d'autres pays, qu'ils procurent à ces derniers des impressions totalement différentes des leurs, ou bien qu'ils leur paraissent très familières, et qu'ils soient capables de les inspirer comme m'ont inspiré les œuvres françaises que j'ai lues autrefois, je dois me rendre à l'évidence, voilà qui me tient énormément à cœur. Donc vous voyez, cette humanité, cette tendresse, je trouve ça vraiment émouvant. Et nous abordons le chapitre 1. C'était un matin d'hiver où la neige était tombée. Cette nuit-là, les premières neiges du paysage d'hiver ont profité de ce que les humains exploraient le royaume du rêve pour tomber furtivement d'un épais et gros cumulus sur chaque maisonnée du village de Marnang, sur les branches d'azalée empilées dans les encoignures, sur les toits-terrasses gris, mais aussi sur le toit des niches aux portes des maisons, sur les aires de battage, sur les tas de bouses du bétail et sur les tas de crottes de moutons, et bien ailleurs encore. Le monde enneigé, produit par la chute discrète et tranquille de cette neige, attirait les maîtres de maisonnée de leur lit au matin. Ils ont ouvert les portes grinçantes des chambres, se sont étirés en soufflant une épaisse haleine chaude dans l'air glacial et semblaient attendre quelque chose en balayant la neige en tas. Le spectacle du soleil matinal, qui illuminait à l'oblique le paysage de montagne recouvert de neige, était splendide. Si on tendait l'oreille, l'esprit serein, on pouvait presque percevoir la subtile fonte des flocons sous la chaleur des rayons du soleil. À ce moment-là, le cumulus, qui avait engendré la neige de la veille, a été emporté par le vent, nettoyant le ciel azur au-dessus des têtes, dans ses moindres recoins, aussi loin que portait le regard. C'est alors que de chaque conduit de cheminée sur le toit de chacune des maisonnées du village de Marnang, une petite queue de fumée bleue est montée en serpentin dans l'air pur, formant pendant un moment un subtil nuage blanc qui évoquait du yaourt dans le ciel du village de Marnang. Les rayons du soleil matinal se sont alors mis à ressembler à des centaines de milliers de fils d'or tirés depuis le ciel et ils ont émis un reflet éclatant et scintillant, illuminant la neige. Les chiens de garde au portail de chaque maisonnée sont sortis de leur niche. Tout en s'ébrouant, étendant leurs pattes et s'étirant dans un cliquetis de laisse, ils ont regardé avec insistance en direction du portail et attendu patiemment que leur maître leur apporte leur nourriture. C'était le matin, au village de montagne, un village en proie à une si grande impatience. Tant d'années plus tard, cette scène matinale du village de Marnang hante mon imagination. Moi, je suis l'enfant qui, sorti d'une maisonnée parmi tant d'autres du village de Marnang, a laissé les empreintes de ses pas sur la neige toute blanche. Une pie bicolore au sommet d'un arbre situé en dehors de l'enclos de notre propriété émettait d'incessants tchac en remuant la queue. Des moineaux volaient en tous sens sous les avant-toits des maisons, frôlant la neige de leurs plumes, et l'air était saturé du parfum de la fumée de tsampa brûlé. Une vingtaine d'années plus tard, alors que je m'amuse ainsi à pianoter sur le clavier de l'ordinateur et que je tape les lettres tibétaines avec des tac-tac, consignant avec précision sur l'écran la scène de ce matin-là, je revois en imagination la chute de neige. À la réflexion, ma première lettre dans cette vie-ci, c'est sur la neige de notre ère de battage, et pas comme je le fais maintenant, que je l'ai tracée. Ceci, ce n'est que l'histoire d'un gamin, pas plus haut que le genou d'un adulte, qui a dessiné avec ses empreintes de pas des motifs à la surface de la neige, comme sur une feuille de papier repliée. Mais c'est à partir de là que ma vie a été bouleversée. Mon père m'a demandé, depuis le toit-terrasse, « Quand as-tu appris à écrire cette lettre ?» Une fois la neige balayée en un tas sur un bord, à l'aide d'une pelle en bois, il l'a fait tomber par blocs vers l'aire de battage et ça a fait « tic ». À ce moment-là, tout en regardant les empreintes de pas que j'avais tracées, je me suis demandé si ce qu'on appelait une « lettre » devait être interprété comme ce dessin. J'ai jeté un œil au dessin tracé par mes empreintes de pas et j'ai jeté un œil à mon père sur le toit. La silhouette paternelle bougeait par intermittence sous les rayons de soleil obliques et d'épaisses colonnes d'haleine blanche sortaient de sa bouche. Chaque bloc de neige poussé par mon père vers l'aire de battage à l'aide de sa pelle en bois, depuis sa position en surplomb, s'éparpillait en tous sens, formant un beau spectacle lors de sa chute. Tandis que j'étais absorbée par ce spectacle, mon père s'est redressé et s'est appuyé sur sa pelle. Il a jeté un œil au motif que j'avais tracé, en commençant par la gauche, et il a dit comme s'il se parlait tout seul. Le tracé est très fidèle. Puis, se tournant vers moi, « Tu saurais lire cette lettre ?» C'est alors seulement que j'ai vaguement pris conscience que ce qu'on appelait une lettre était quelque chose qui pouvait se lire. Mais je suis restée à sucer mon index entre les dents. Petit, quand j'étais confrontée à un fait qui dépassait mes facultés intellectuelles, j'avais pris cette habitude. Mon père, voyant ma perplexité, m'a dit « Petit imbécile, ce que tu as écrit, c'est ce qu'on appelle un K. » Le K de la série K, K, Ga, Nga, la lettre K en tibétain. Ce matin enneigé, j'ai fait la rencontre de la première lettre consonne tibétaine, le K. Même si cela défie l'entendement, cette rencontre n'a pas suscité de sentiment d'étrangeté. Comme si je retrouvais une vieille connaissance dans le flot pressant d'une foule. J'ai éprouvé une impression de familiarité immédiate. Je ne compte pas évoquer auprès de vous la réincarnation ou les prédispositions karmiques. Ces termes sont pour moi comme des gouffres mystérieux, à petite ouverture mais aux profondeurs si vastes que, encore maintenant, mes capacités intellectuelles ne peuvent les accueillir. Toutefois, cette année-là, mon père a mentionné ces termes profonds, à moi qui n'étais pas plus haut que le pouce. Depuis le toit de la maison, il m'a dit « Quand on dit que tu pourrais être la réincarnation de notre oncle tant triste, ce n'est après tout pas faux. Tu as gardé de bonnes prédispositions karmiques. » Est-ce qu'il s'adressait à moi ? Si c'était vraiment le cas, je n'ai pas du tout compris le sens de réincarnation et de prédisposition karmique. En tout cas, il ne m'a pas fallu longtemps pour claironner fièrement la nouvelle de ma maîtrise des lettres à mes copains qui s'étaient rassemblés sur notre aire de battage après être passés par les ruelles de notre village. « C'est quoi une lettre ?» ont-ils demandé eux aussi, tout comme moi au départ, en écarquillant les yeux. Ce qui est encore plus drôle, c'est que Sadrun a tendu la main vers ma poche de chemise. « Allez, donne-la ta lettre, donne-la ta lettre, on va y jouer tous ensemble !»
ma de ti ji wi ta ki ka don to yo a ma de ti ji wi ta ki ka don to yo
Et bien voilà, Donc, la vie de Milarepa, c'est ce que je vous propose en deuxième partie. C'est le phénomène de la spiritualité tibétaine. C'est un grand maître, très grand maître. Sa réputation va bien au-delà du simple domaine des spécialistes. Et nous avons l'immense chance d'avoir, en quelque sorte, sa biographie. Alors, je mets des guillemets, hein, parce que, voilà, vous allez comprendre. Donc, le titre, Milarepa, ses méfaits, ses épreuves, son illumination, traduit du tibétain par Jacques Bacot, aux éditions Fayard, 1971. Donc, je vous dirai d'abord quelques mots sur Marco Palis, qui a préfacé l'édition, que je ne connaissais pas du tout, 1895-1989. Et c'était quand même très intéressant, donc j'ai pris quand même pas mal d'extraits. Alors, qui est ce monsieur ? Marco Palis, alpiniste, voyageur, musicien. C'est un traducteur gréco-britannique. Il séjourne au Tibet et découvre la religion bouddhique, réside dans des monastères, apprend le tibétain. Et c'est un pratiquant fidèle et un défenseur infatigable du Tibet. Il a aidé les membres de la diaspora tibétaine en Angleterre et a rédigé des livres importants, dont Sims et Lamas, en 1939. Et j'ai trouvé que sa vision était tellement pénétrante que j'ai souhaité vous en faire part. La remarque de Marpa c'est le maître, si vous voulez, le maître de Milarepa, celui qui l'a formé. La remarque de Marpa, après avoir écouté la relation des méfaits passés de son disciple, sorcellerie, meurtre, dévastation des récoltes des paysans par une grêle provoquée, est caractéristique. Dans ses mots, en faisant cela, tu ne m'as pas offensé. On ne doit pas voir de l'indifférence aux valeurs morales de la part d'un sage que sa propre réalisation non dualiste, entre guillemets, avait située au-delà de la distinction entre bien et mal, mais plutôt un discernement qui allait au-delà de la forme des actes pour découvrir les signes du saint, S-A-I-N-T, virtuellement accompli. Le seul souci de Marpa était de transformer cette virtualité en un fait accompli. À cette fin, la question de trouver la méthode appropriée pour une personne comme pour les choses en général sera toujours cruciale. Il est en accord avec la théorie des tantras et par conséquent avec leur pratique de traiter un pouvoir mal dirigé non pas comme une chose à éliminer chirurgicalement mais comme un fond d'énergie neutre en soi dans laquelle il doit être puisé à des fins positives par quelqu'un qui possède l'habileté nécessaire pour la canaliser vers une bonne destination. Alors, ça va peut-être vous paraître un peu étrange, ce texte, mais quand on découvrira le texte lui-même, vous comprendrez mieux. La relation de maître à disciple dans cette tradition, elle est absolument fondamentale. Et quand Milarepa va trouver son maître, ben je ne vais pas trop gâcher le plaisir, mais il faut quand même que je vous explique un peu pour que vous puissiez comprendre. Quand Milarepa donc va rencontrer Marpa la première fois, il lui raconte sa vie, donc tout ce qu'il a fait d'horrible, etc. Et Marpa ne le juge pas. Il n'y a pas de jugement, enfin, il n'y a pas de condamnation à proprement parler, puisque son travail va être justement de le faire passer à autre chose. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est profond, cette attitude. On pourrait le mettre chez nous, on le mettrait en prison directement. Et là, il y a une chance de tirer quelque chose de bien, et il a amplement réussi. Donc voilà peut-être pourquoi, en fait, cette histoire est si exceptionnelle. Elle est véridique, hein, bien entendu, c'est encore plus extraordinaire. Alors, je poursuis un petit peu un autre extrait de la préface. Donc là, c'est donc Marco Palis qui parle à son nom propre. Dans le Tibet de nos souvenirs, un homme pouvait ne rien demander de mieux que l'occasion de servir un des grands contemplatifs d'une façon discrète, comme par exemple en lui montant périodiquement de la nourriture au flanc escarpé de la montagne jusqu'à la grotte où il avait fixé sa retraite temporaire. Ceux qui assumaient pareille tâche apportaient toujours le plus grand soin à ne rien faire qui puisse briser momentanément le fil de la méditation de l'anachorète. En arrivant au seuil de la grotte, il déposait sans un mot la nourriture, généralement sous forme de tsampa, la farine d'orge grillée qui, pour les Tibétains, remplit l'office de pain. Après quoi, ils se retiraient comme ils étaient venus, pour répéter de temps à autre la même offrande, tant qu'il en était besoin. Peut-être, après des années ainsi passées, remarquait-il à certains signes que la grotte avait été abandonnée par son occupant. Redescendant alors pour la dernière fois les pentes familières, c'est à peine s'il se demandait où il avait bien pu aller. Les contemplatifs ont leur raison de faire ce qu'ils font, lesquelles sont différentes de celles des autres hommes. Le vent de l'esprit souffle où il veut. Tout le monde au Tibet en était conscient. Derrière une conduite comme celle que nous venons de décrire, ou tout autre du même genre, réside la nette conviction, commune aux Tibétains de tous ordres, que la présence dans leur voisinage d'un saint, ajoutez l'épithète contemplatif et peut-être surfait, est un bienfait concret, dont les effets demeurent durables, non seulement de son vivant, mais après lui, pour tous les êtres, tant humains que non humains, qui ont approché l'aura de son influence. Pour eux, un saint est avant tout un réaliste qui a une juste conscience de ses priorités, alors que l'homme à l'esprit profane vit un rêve kaléidoscopique de désir inassouvi, d'acquisition ou d'échapper, porté de moment en moment par le courant de son karma, obéissant à la loi d'action et de réaction concordante, qui exprime le principe de la justice immanente, animant le processus même du changement. Troisième petit extrait, donc Milarepa, 11e siècle de notre ère. Le Tibet que connut Milarepa et qui chérissait sa mémoire n'est plus. Et pourtant, jusqu'en 1947, la vie de ce pays encore paisible et heureux ne différait guère essentiellement de ce qui existait de son temps. Malgré les changements considérables apportés par quelques 8 siècles d'histoire, les hommes parlaient et se conduisaient d'une façon qui rappelait à chaque instant les personnages qui figurent dans le présent livre. On pouvait reconnaître en eux la même robustesse terre à terre, le même esprit vigoureux, non exclusif de douceur, le même humour, la même absence de dramatisation de soi, le même sentiment de parenté avec la nature et avec les êtres frères de l'homme, grands et petits. Les bêtes sauvages et les oiseaux qui parcouraient les vastes espaces du plateau tibétain se souciaient à peine de bouger à l'approche de l'homme, car ils n'en attendaient aucune molestation. Quant aux animaux domestiques, s'ils pouvaient être abattus pour fournir de la nourriture, ce qui était inévitable en pareil climat, ils étaient pour le reste traités avec bienveillance par leurs propriétaires. On ne les injuriait ni ne les battait en aucune circonstance, je n'en ai jamais rencontré d'exemple. Non plus qu'on ne les houspillait d'aucune façon. De ce point de vue, les Tibétains offraient un brillant exemple à la plupart des hommes. Les gens du Tibet menaient une vie simple. Les Européens d'aujourd'hui auraient appelé leurs conditions d'existence « dures » et leur nourriture « monotone ». Mais la chair même était saine et personne n'était exposé à la faim, sinon par accident, ce qui signifie déjà beaucoup. À part les choses matérielles, la vie au Tibet était remplie de diversité et de couleurs, tant avec les artisans qui fabriquaient des articles de qualité que l'on trouvait jusque dans les maisons les plus humbles, qu'avec les troupes d'acteurs itinérants qui représentaient en plein air les drames classiques, à quoi il faut ajouter les merveilleux mystères, M majuscule dansé, pour lesquels les habitants de toute la région se rassemblaient à certaines époques, montant leurs tentes autour du site où devaient se dérouler les rites dramatisés. Ni la banalité, ni la vulgarité n'avaient de place dans la vie d'aucun Tibétain. Donc vous voyez, je crois qu'on a là un bon aperçu de cette culture qui nous permet de nous imaginer un peu le milieu, l'ambiance dans laquelle vont vivre les personnages dont nous allons parler. Jacques Bacot a fait l'introduction de cet ouvrage. Et sa traduction, c'est lui qui a fait également la traduction, elle est toujours tout à fait appréciée. Quelques mots donc sur Jacques Bacot, qui est un très grand monsieur en France, et pas qu'en France, sur le plan international. En 1906, Jacques Bacot découvre le Tibet au cours d'une expédition qui l'emmène depuis le Tonkin sur les chemins de pèlerinage du Toit du Monde. À son retour à Paris en 1908, il se consacre à l'étude du Tibétain auprès de Sylvain Lévy. Et je rajoute qu'il avait ramené avec lui un Tibétain, pour l'aider sans doute. En 1909, il réalise un nouveau voyage au Tibet en un temps de révolte, dont il a laissé un célèbre témoignage dans les marches tibétaines, le Tibet révolté, 1912. Il s'est ensuite voué à la recherche historique et philologique, produisant des ouvrages fondamentaux pour sa discipline, une grammaire du tibétain littéraire, que j'ai moi-même, mais qui est en transcription, hein, pas en tibétain, en caractère tibétain, en 1946, des traductions et des contributions à l'étude des documents tibétains rapportés par la mission Pelliot. Pelliot, c'est aussi un grand chercheur, dont nous parlerons sans doute aussi. Il a été directeur d'études de tibétain à l'École pratique des hautes études à partir de 1936, membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres en 1947, et il est entré à la Société asiatique dès 1908. Son dévouement à cette dernière, en particulier pendant les difficiles années de guerre, s'est manifesté encore davantage lorsqu'il en est devenu président en 1946, à la mort de Paul Pelliot, et par un legs de manuscrits tibétains. Outre ses contributions scientifiques au journal asiatique et aux autres publications de la société, notamment le cahier 14 et les manuscrits de la Haute-Asie conservés à la Bibliothèque nationale de Paris, il a laissé au sein de la compagnie le souvenir d'un homme à la distinction extrême. Alors, il faut dire que Jacques Bacot est particulièrement célèbre pour nous en France parce qu'il a été, donc il a participé aux fouilles de la grotte de Dunhuang, dans le nord de la Chine, où s'était trouvé, par miracle, si on peut dire, conservé énormément de manuscrits, pas seulement tibétains, dans d'autres langues, si ma mémoire est bonne, chinois, mongol. Et à la différence d'autres chercheurs un peu expéditifs, il a pris le temps, il est resté des journées entières dans cette grotte, à classer les documents, à les ranger bien comme il faut, de façon à ce que les scientifiques, d'ailleurs les scientifiques n'ont toujours pas terminé l'étude de ces, ça fait 100 ans, hein, plus, l'étude de tous ces manuscrits qui sont d'une richesse inimaginable. Et donc, je vous lis, bien entendu, de bonne partie, large partie de cette introduction. Milarepa fut magicien, poète, ermite. Il fut cela successivement, et si complètement, que les Tibétains ont peine à ne pas séparer ces trois personnages. Et selon qu'ils sont nécromants, c'est-à-dire adeptes des sciences occultes, laïcs ou religieux, Milarepa est leur plus grand magicien, leur poète et leur saint. Cet être singulier vécut au XIe siècle de notre ère. Sa mémoire est encore vivante au Tibet, comme celle d'une personnalité récente. Ses sectateurs, c'est-à-dire les gens qui le suivent, ses sectateurs actuels sont héritiers de sa parole transmise oralement par filiation spirituelle ininterrompue depuis un millier d'années. Certains méditent sur les pentes du mont Everest, là où Milarepa, le premier, médita dans la solitude. Les Tibétains font de leurs saints et de leurs grands lamas des images fidèles, peintes ou ciselées, à la fois portraits et images pieuses. Elles reproduisent la physionomie, la laideur même, quelquefois, des sujets. Les images de Milarepa ne démentent pas le personnage tel qu'il apparaîtra au début de son histoire. Un jeune garçon bizarre, à tempérament déconcertant, dont le thème blafard s'allie à une vigueur physique inlassable, dont les traits nous contredisent une ténacité extraordinaire, dont l'air innocent, un de ses maîtres le croira idiot. cache une intelligence abstraite, uniquement préoccupée d'absolu. Ilote, volontaire, Milarepa fut un anormal, comme tout grand mystique. La normale humaine étant la médiocrité, de même que le génie est un excès et un dérèglement, la sainteté, au moment même, est une extravagance qui suscite autour d'elle la méfiance de ceux-là même qui invoquent le plus les saints du passé. Nul ne fut guère un saint de son temps, car il est difficile d'être saint sans déplaire à la vulgarité ambiante. La géographie est faite du récit des résistances mondaines, familiales, quelquefois même religieuses, aux vocations. Aussi, les grands mystiques n'apparaissent pas dans une société trop avancée. Une demi-barbarie est le milieu favorable au développement de l'ascétisme. Sorti de la race guerrière dont les invasions deux siècles seulement avant lui avaient couvert toute l'Asie centrale et l'Occident chinois, le doux Milarepa n'en est que plus étrange. Il nous apprend lui-même que 7 générations seulement au-dessus de lui, c'est-à-dire vers le 8e siècle, son ancêtre était Lama. Déjà, ce souvenir, c'est des souvenirs aussi lointains. Dont un des premiers à cette époque, qui vit Padmasambhava, fondé le lamaïsme. Le fils de ce lama, nommé Gyoze, de la tribu Kyumpo, fut un célèbre sorcier. De pareilles ascendances, si elles sont exactes, explique un peu la carrière singulière de ce fils de barbare qui endura les plus mortifiantes épreuves pour obtenir la vérité métaphysique et qui l'épura ensuite jusqu'à l'idéalisme le plus transcendant. Dans sa jeunesse, Milarepa est influençable, sans volonté personnelle pour choisir une voie, mais sa volonté ne connaît plus de limites pour suivre un chemin qu'on lui a tracé. Sa mère n'a qu'un mot à dire pour en faire un criminel acharné à sa vengeance. Son maître en sortilège, saisi de remords, n'aura encore qu'un mot à dire pour en faire un ascète acharné à poursuivre la sainteté. De ces deux moments sont parties ses deux vies. Sa vie mondaine chargée de crimes, sa vie religieuse remplie d'épreuves et de méditations. La souffrance occupe la grande place dans ces deux existences. Dans la première, il n'a connu que la joie mauvaise de la vengeance. Dans la seconde, après l'anéantissement de ses sens et le renoncement à tout bonheur terrestre, il connaît enfin les enchantements de l'extase. Voilà, j'espère vous avoir enchanté avec ces textes absolument originaux. Et puis nous vous disons à la prochaine fois. Merci de votre écoute. Da na 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 na